Elizabeth Taylor.
Totalement.
Et les gens vont s'arracher finalement ces objets-là. Mmh. Et vous avez également cette rareté pour des collections, vous l'avez dit, hein, des collections iconiques, des statements dans l'histoire de la joaillerie qui ne sont plus créées aujourd'hui en 2025 et que nos clients s'arrachent véritablement sur toute la surface du globe. C'est assez intéressant de le voir aujourd'hui. On a des ventes privées, on a des ventes online, on a des ventes live. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a une offre qui est là pour nos clients absolument sur toute la période de l'année pour ces clients qui sont vraiment en recherche de bijoux vintage.
BFM Business, première sur l'écho. Rendez-vous sur BFM Business. Investir dans des entreprises non cotées au fort potentiel de croissance est maintenant accessible au plus grand nombre. Inside Private Equity vous emmène au cœur de cette classe d'actifs. Partez à la découverte des plus grands fonds mondiaux et de ces sociétés qui façonnent le monde de demain. Inside Private Equity, le rendez-vous pour investir dans l'économie réelle avec Christophe Pallet. Dimanche à 20h sur BFM Business.
Votre rendez-vous avec Altaroc, leader du private equity à destination des investisseurs privés.
Auchan.
Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher?
Eh bien, chez Auchan, pour un Noël encore plus waouh, on fait le choix de vous offrir jusqu'à samedi, jusqu'à 10 euros en bon de réduction pour vos achats sur tout le surgelé avec votre carte waouh.
Jusqu'à 10 euros de réduction? Oh, je suis chaud!
Auchan, le choix, le bon. Par tranche de 20 euros d'achat en surgelé, recevez un bon de réduction de 5 euros pour vos prochaines courses, dans la limite de 2 bons. Conditions et listes des hyper ouvertes ce dimanche toute la journée sur Auchan.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Carrefour. Quand vous me dites ketchup ou barbecue, moi je prends les deux. Eh bien, je vous réponds que c'est un Noël pour tous les goûts chez Carrefour, avec 50% de remise immédiate sur le deuxième produit Heinz acheté. Et c'est valable sur tout Heinz. Alors rendez-vous jusqu'au 21 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive et sur votre appli Carrefour. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors conditionnement promotionnel, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Notre chapelet d'études de chiffres toutes plus originales les unes que les autres. N'oubliez pas évidemment tous nos comptes sur les réseaux sociaux, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, la librairie de l'écho pour retrouver les références complètes de tous les livres qu'on cite dans l'émission. Et tout de suite, place aux auteurs. De tous les grands pays européens, la France est peut-être celui qui gâche le plus son potentiel, disent les économistes, sa capacité d'innovation et d'audace, ses talents, sa jeunesse par excès de réglementation, excès de fiscalité, excès de protection. Alors quelles sont les conséquences de ce gaspillage à tous les étages? Quel modèle économique pourrait libérer notre potentiel de croissance sans renier notre modèle social? Réponse avec nos deux invités. Aziz Seni, bonjour.
Bonjour.
Aziz, vous êtes entrepreneur, fondateur du réseau Quartier d'affaires, du label Made in Banlieue et du Forum économique des banlieues. Et vous publiez donc Made in Banlieue aux éditions Michel Lafond. Alexis Gardy, bonjour.
Bonjour.
Alexis, vous êtes le président des clubs de vacances Belle en Bras. Vous étiez consultant chez Roland Berger au Québec et vous publiez Courir la chance aux éditions Hermann, une analyse passionnante du modèle québécois. Aziz, on commence avec vous. Votre livre est un plaidoyer pour ce potentiel de croissance, d'innovation, de création de richesse qu'est la banlieue. Aujourd'hui, elle est dans quel état économique et social, la banlieue?
Il y a un proverbe africain qui dit « quand le riche maigrit, le pauvre meurt ». On est dans une situation économique nationale où on voit bien qu'on est tous en train de maigrir et le budget, lui, il a carrément fondu. Eh bien, imaginez ceux qui sont dans les territoires les plus pauvres, la ruralité et bien sûr les banlieues. Oui, la situation elle est extrêmement difficile. Est-ce qu'elle est condamnée? Je ne crois pas. Et dans ce livre, eh bien, je rappelle le potentiel économique de ces territoires. Ces dernières années, on a regardé la banlieue à travers le prisme social, ouais, le prisme sécuritaire, le prisme urbanistique, jamais au grand jamais, à travers le prisme économique, et de se dire finalement, de se poser une question qui est une question qui conduit à une vision. Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires à 20 ans d'un point de vue économique ?
Alors, Aziz, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires, sachant qu'on ne part, pas d'un terrain vierge ?
Ah non,
il y a aujourd'hui une densité quand même économique importante en banlieue. Hein. Vous citez 250 000 entreprises, 75 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas un désert. Vous dites que ce n'est pas un désert, c'est un terrain en friche.
C'est un terrain en friche. Vous savez, souvent, on parle de la banlieue en disant on a investi ces fameux milliards dans la banlieue. Mais ceux qui, généralement, disent qu'on a investi beaucoup oublient de dire combien elle rapporte. 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires des 250 000 TPE, PME implantées, 42 milliards de consommation annuelle dans ces territoires. C'est le premier réservoir de jeunesse du pays. La démographie est un sujet majeur quand on fait une analyse économique. Eh bien aujourd'hui, si la France vieillit, eh bien on a des territoires qui rajeunissent et la banlieue en fait partie. Donc on a des forces, on a des joueurs. Vous savez, j'ai un responsable de PME installé dans un quartier dit difficile qui me disait « La France, on fait partie de l'équipe de France et en fait on nous laisse sur le banc, on ne nous fait pas jouer ». Et ouais. C'est vrai que dans cette compétition mondiale, on a des joueurs parmi les meilleurs qui sont sur le banc et qui ne demandent que ça, d'entrer sur le terrain pour mettre des buts.
Objectivement, Aziz, est-ce que c'est plus difficile d'entreprendre, de développer une affaire, d'innover en banlieue ?
Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans le cadre du roadshow qui m'a conduit à rencontrer pas mal d'investisseurs dans le cadre de l'organisation du Forum économique des banlieues 2025, j'ai rencontré un investisseur chinois. Il y a un sondage IFOP qui a été publié l'année dernière qui disait que 44% des Français pensent que l'image de la banlieue est un frein à l'investissement. Et je posais la question à cet investisseur chinois en lui disant « Mais est-ce que ça pourrait être un frein pour vous d'investir dans ces banlieues ?» Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il dit « Monsieur Seni, nous investissons dans des endroits dans le monde où il n'y a ni eau, ni électricité, ni droit. » Il venait juste de m'expliquer que les quartiers nord de Marseille ou le Val-Fouré, c'était le paradis pour lui. Donc, mon sujet, il est aussi de faire prendre conscience aux investisseurs français que s'ils n'y vont pas, il y a la raison du cœur et il y a la raison du compte d'exploitation. S'ils n'y vont pas, ce cadeau de 150 milliards, je crains que ce soit des investisseurs étrangers qui le prennent.
Attendez, vous dites 150 milliards, c'est le chiffre que vous donnez dans votre livre sur le potentiel en fait, perdu à laisser les banlieues sur le banc de touche, comme vous le dites.
C'est la fourchette basse, 150 milliards.
Ouais.
Quand on reprend les études de l'Institut Montaigne et de France Stratégie, qu'on les recoupe, on est plutôt autour de 250 milliards. Donc, on a là un super potentiel de développement à 15 ans si nous faisons ce qu'il faut en matière d'investissement. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Moins de 2% des investissements privés français vont dans ces territoires. Moins de 2%. C'est incompréhensible. Après, on peut faire aussi la comparaison, c'est ce que je décris dans le livre, avec des dispositifs qui existent ailleurs. Prenons le cas des États-Unis. Il y a un dispositif que l'administration Obama a créé qui s'appelle les Opportunity Zones, qui ont permis en 20 ans de transformer le Bronx. Je peux vous assurer que le Bronx des années 90, comparé à certains quartiers de France, c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus difficile, qui aujourd'hui sont devenus des hubs économiques.
Oui, mais
Harlem,
nous,
Compton,
nous, on a
Détroit.
Fait des, on a fait des zones franches, on a l'impression qu'on a quand même essayé de faire beaucoup de choses et que ça n'a pas vraiment marché.
Non, en matière économique, un seul dispositif a été mis en place, c'est la zone franche, et on n'a pas donné les moyens de contrôler la zone franche. Donc ça a donné lieu à des dérives. Mais effectivement, hormis la date de 95-96, gouvernement Juppé, ce dispositif des zones franches urbaines, sorti de ça, jamais aucun dispositif en matière de développement économique dans ces territoires, jamais.
Alors, vous dites 250 milliards, allez, entre 150 et 250 milliards de potentiel de croissance inexploité aujourd'hui. Mais inexploité, pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? C'est le manque d'argent ? C'est le manque d'infrastructures ? C'est...
Vous savez, quand vous avez un produit, il vous faut d'abord un VRP. Il faut le structurer, le produit. Si on regarde la banlieue comme un produit d'investissement, il faut le structurer. Jamais personne ne l'a structuré aujourd'hui en tant que produit d'investissement. Ensuite, il vous faut un canal de distribution de ce produit. Vous avez Choose France qui existe. Nous, on a décidé de créer un Choose banlieue. Moins de 1% des investissements étrangers qui arrivent en France vont dans ces quartiers. Nous avons créé le label Made in banlieue parce que le Made in France existait et nous avons créé ce label pour nous inscrire dans cette souveraineté. Le Made in France, c'est le maître des territoires d'abord. La ruralité, les centres-villes et bien sûr la banlieue. Donc, il faut mettre en place une stratégie où la banlieue revient à tous les niveaux de réflexion stratégique en matière économie nationale. Et ça, ça n'a jamais été fait.
C'est quoi les... Alors, vous faites la liste hein, quand même de tous les obstacles qui sont un peu plus hauts en banlieue qu'ailleurs. Vous dites l'accès au crédit, c'est plus difficile. Vous dites les retards de paiement, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Il y a quand même une fragilité plus importante.
Bien sûr, le scoring bancaire, tout le monde comprendra que si vous êtes une TPE-PME installée dans un quartier, votre scoring est plus difficile que celui installé ailleurs, d'une entreprise installée ailleurs. Donc oui, il y a des difficultés à l'accès au financement. On a des problématiques sur le recouvrement. Mais c'est aussi une problématique plus large des TPE-PME françaises, c'est que quand vous avez des donneurs d'ordre qui ne vous payent pas à temps, qu'est-ce que vous voulez faire en pratique? Vous ne pouvez rien faire.
Mais est-ce qu'il y a par exemple des erreurs que les entrepreneurs font plus fréquemment dans les quartiers que dans le reste du pays?
Oui, peut-être que sur l'encadrement, sur l'accompagnement, peut-être qu'ils pensent aussi que des réseaux comme le MEDEF, la CPME, toutes ces organisations...
C'est
pas pour eux. Donc ce sentiment de dire « je vais faire tout seul dans mon coin ». Et ça, c'est peut-être un peu le travers. Et en même temps, ce travers, c'est une force, parce que c'est ce qui leur permet, pour beaucoup, d'avoir créé leur entreprise et ensuite de la développer sans cet état d'esprit un peu combatif, ils ne l'auraient pas. Donc, c'est à la fois une force et une faiblesse.
Vous sentez un esprit d'entreprise plus élevé qu'ailleurs? On sait qu'on a des statistiques, par exemple, sur les immigrés en général, comme quoi les immigrés sont plus entrepreneurs, créent plus d'entreprises que la population locale. Est-ce que vous sentez que dans les habitants de ces quartiers, est-ce que vous sentez une fibre entrepreneuriale qui fait que justement, bah, quand c'est plus difficile de trouver un job, etc., on a peut-être plus envie d'entreprendre par soi-même?
La meilleure motivation, c'est la pauvreté. Quand vous êtes pauvre, vous êtes par nature plus enclin à vouloir remplir votre frigo, payer votre loyer. Vous savez, au niveau mondial, si je vous dis que la croissance mondiale est tirée par les pays en voie de développement, les pays émergents, rien de neuf sous le soleil, c'est de la palissade. Eh bien, moi, je crois vraiment que dans notre pays, nous avons nos propres territoires émergents et avec des KPIs et des indicateurs qui sont exactement les mêmes que l'on utilise au niveau mondial. La démographie, la jeunesse, le foncier disponible, 300 millions de mètres carrés disponibles, inexploités. Est-ce que vous savez que, par exemple, dans une ville comme Bordeaux, vous avez 4 QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville, dont 2 où il y a du foncier intramuros disponible, à Bordeaux. À Bordeaux. Donc, on marche sur la tête. Et donc, on regarde, on a laissé en jachère ce potentiel, alors qu'il est tout à fait exploitable, dans l'intérêt des habitants qui sont là, dans l'intérêt de la croissance des entreprises qui y sont installées, mais dans l'intérêt de notre économie. Et je crois qu'actuellement, on cherche un petit peu d'argent pour le budget. Donc, il faudrait peut-être regarder au-delà du périph.
Et est-ce que l'aspect sécuritaire n'est pas quand même un frein aujourd'hui, un des freins principaux au développement de l'activité dans ces quartiers? Bon, je vous renvoie sur toute l'actualité récente, le développement des trafics, regardez ce qui se passe chez Orange à Marseille, chez la BNP en banlieue nord de Paris, où il y a un niveau d'insécurité. C'est compliqué d'entreprendre quand il n'y a pas la sécurité des personnes.
Vous savez, on a deux façons de faire. Soit on dit, on attend de régler la sécurité. Je peux vous assurer que vous allez attendre longtemps, parce que qu'est-ce qui s'est passé toutes ces dernières années? On a laissé le trafic gangréné. On peut en dire deux mots du trafic. C'est 6 à 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est, on l'oublie souvent, une partie dans ces quartiers. Mais je rappelle que 95% des consommateurs de drogue n'habitent pas ces quartiers. Ouais. Ce sont des gens du centre-ville, d'ailleurs, et des CSP++. Je rappelle que ces 5 à 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires ne restent pas dans les banlieues. Ça se verrait. Les banlieues ne sont pas pavées de marbre et de baies vitrées. On a un argent qui part ailleurs, ou je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Rappelez que ce trafic, c'est un sujet de société. La consommation, ce sont les clients qui, par leur consommation, font vivre ce trafic. Donc c'est un sujet de société française et pas un sujet de banlieue. Enfin, je vais encore reprendre cette anecdote de l'investisseur chinois. Si vous voulez attendre que tout se règle, vous ne ferez jamais rien. Je pense à l'inverse, comme l'a démontré l'expérience américaine dans le Bronx, à Harlem, à Compton. C'est que le levier économique ne réglera pas tout, mais réglera une partie de ces problématiques. Vous savez, quand vous avez des jeunes qui ne trouvent pas de travail à côté de chez eux, peut-être que si demain, au lieu d'avoir une cité dortoir, ils ont une cité productive, qu'à côté de chez eux, ils ont des centres d'affaires, des zones d'activité où les entreprises recrutent et préféreront recruter localement, eh bien peut-être que plutôt que d'avoir des sirènes malfaisantes qui les appellent, peut-être qu'ils diront non, je préfère aller bosser.
Allez, pour créer ce choc entrepreneurial, pour voir les banlieues autrement, c'est quoi les mesures qui vous paraissent les plus urgentes à mettre en place ?
Les mesures les plus urgentes, je les décris, il y a 12 piliers dans mon ouais. livre. Il y en a quelques-unes, ça va du macro à des choses très, très opérationnelles. La politique de la ville, si je vais commencer, je vais vous donner deux exemples, un macro et un micro. Au niveau macro, c'est d'arrêter avec la politique de la ville à la grand-papa. Il faut un monsieur développement territorial des banlieues à Bercy. Pas un ministre de la politique de la ville qui soit déconnecté, sans pouvoir, sans budget. Il faut aujourd'hui passer à une situation où on active vraiment et de manière forte le levier économique dans ces territoires. Ça, c'est pour qui pilote en haut, et on n'a pas besoin de recréer une usine à gaz, il y a toutes les agences qui existent, il faut les coordonner. Sur le terrain, un exemple qui peut créer jusqu'à 200 000 emplois, c'est, j'ai appelé ça le top nounou. On a dans ces quartiers une problématique de famille monoparentale, des mamans qui ont des enfants et qui ont des difficultés soit à faire garder leurs enfants et aussi des gens qui habitent dans les environs de ces quartiers et qui aimeraient faire garder leurs enfants. On a une problématique de garde d'enfants. Eh bien, je propose de créer un statut entre la nounou et l'assistante maternelle où une dame avec une expérience ayant eu des enfants puisse garder au moins deux enfants sans avoir à monter une usine à gaz. 200 000 emplois, et ça coûte 22 fois moins cher qu'une crèche.
Voilà, le potentiel des banlieues, il est là, reste à l'exploiter. Alors, toujours dans notre recherche, finalement, d'optimisation ou de révélation de ce potentiel pour l'économie française, de ce potentiel de croissance, cette recherche aussi d'un équilibre entre modèle social et performance économique est là. On va se tourner vers un modèle économique assez unique. Alexis Gardy, c'est celui du Québec. Québec, où vous avez vécu longtemps, vous avez monté une entreprise au Québec. D'abord, est-ce qu'il y a un modèle québécois ?
Il y a définitivement un modèle québécois qui se distingue de par sa localisation géographique. Un îlot au milieu du continent nord-américain, avec une langue qui n'est pas la langue parlée par les millions d'habitants qui cohabite à la périphérie du Québec. Il y a un attachement profond au modèle historique, au modèle européen, et une proximité assez forte avec ce qui se passe en France, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe en Italie, dans un environnement où on regarde souvent du nord au sud. Hein, et ça m'a frappé, moi, quand je suis arrivé à Montréal pour développer Roland Berger en 2012, c'est que la plupart de mes concurrents de l'époque apportaient des comparables, des repères, des exemples d'entreprises qui travaillaient dans la zone nord-américaine, ouais, hein, ouais, avec ouais. une frontière à Montréal. La frontière américaine est à quelques kilomètres de la ville. Mais on avait vraiment ce regard vertical nord-sud. En apportant un angle et une perspective est-ouest, transatlantique,
alors, oui, parce que
on arrive à enrichir cette perspective, alors, cet angle de vue.
Parce que ce modèle québécois, c'est quand même quelque chose d'assez hybride. C'est le plus social de tous les modèles d'Amérique du Nord. Ouais. J'ose pas dire étatiste, parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais c'est le et c'est en même temps un modèle libéral. Ça fonctionne comment ?
Ça fonctionne en reposant sur déjà un état d'esprit qui, moi, en tant que Français arrivant à l'étranger, j'avais eu des expériences internationales, mais j'arrive au Québec et à Montréal, et c'est le titre de mon livre d'ailleurs, avec cette expression que j'aime bien, qui est courir la chance.
Ouais.
Courir la chance en québécois, en français, d'ici, c'est prendre un risque. Quand on monte une société, quand on va dans les banlieues, quand on va développer une entreprise, on prend un risque. Quand on déménage, on prend un risque. Au Québec, on court la chance.
Ouais. Hein?
Et cette philosophie, et cet angle, c'est... et cette approche, elle synthétise assez bien, finalement, cet équilibre entre une composante sociale, une composante éducative aussi, hein, qui est centrale dans cet équilibre, et une composante économique qui ne sont pas détachées. Ces trois composantes-là sont imbriquées les unes avec les autres. Quand, par exemple, le Canada fédéral et le Québec décident de participer au renforcement de la filière industrielle de l'aéronautique, C'est toute la chaîne qui s'articule. Ce sont des perspectives d'usines, d'emploi, de création d'emploi, mais ça va jusqu'à la perspective d'éducation dans les programmes. Et ça va jusqu'à, on en a fait les frais à notre premier passage de douane avec mon équipe, la sélection de qui rentre ou qui ne rentre pas au sein du territoire avec un diplôme super-héros. Dans la filière aéronautique, vous cochez pas mal de cases et vous avez un droit de jouer beaucoup plus important. Donc c'est quand même une imbrication de ces plaques qui fonctionne de concert.
La politique sociale, c'est quoi ? C'est, est-ce qu'il y a la protection sociale, ça fonctionne comment ? L'école, ça fonctionne comment ? Les retraites, ça fonctionne comment ?
Je vais prendre votre dernier point. Les retraites, et puis je pense que le parallèle avec ce qu'on vit depuis quelques années en France est intéressant. Ça fonctionne de manière apaisée, ça fonctionne de manière constructive. De tout temps, historiquement, la composante de retraite par capitalisation est intégrée au modèle. J'ai eu la chance de piloter un projet de planification stratégique pour un des gros investisseurs québécois, qui est le fonds de solidarité FTQ, Fonds des travailleurs du Québec. C'est donc l'argent, la caisse de retraite des travailleurs, des ouvriers québécois, piloté par les grandes organes syndicales du Québec. Le débat, il est dépassionné. Le débat, dans cette instance, il est de savoir où seront le dollar canadien, où seront les dollars canadiens les mieux investis dans les territoires du Québec, dans les filières industrielles que l'on souhaite développer ou économiques que l'on souhaite développer, et dans, puisque c'était une composante naissante en 2014 quand j'ai eu l'occasion de travailler là-bas, sur l'impact, sur l'impact social d'une part et sur l'impact environnemental d'autre part. La chaîne de décision, encore une fois, elle est équilibrée et elle est très imbriquée. Il n'y a pas un débat passionné sur un modèle versus un autre. C'est un ensemble de modèles qui fonctionnent et qui coexistent.
Comment est organisée la fiscalité ? Est-ce qu'on paye plus d'impôts qu'en France ? Est-ce qu'on en paye moins ? Elle pèse sur quoi ?
Alors, la fiscalité, ça n'est pas un paradis fiscal, le Canada. Quand ils ont entamé, au début des années 2000, entre 2000 et 2010, la refonte de leur service public, le choix a été fait d'améliorer la qualité de services publics, de réduire le spectre d'intervention de l'État et d'augmenter massivement les impôts.
Juste, si on remonte quelques années encore avant, c'est un pays qui connaît une très grave crise de ses finances publiques, qui est obligé de mener une politique d'assainissement drastique.
Et de restructuration complète de ses services publics, c'est clair, sans dégrader le service. Donc c'était trouver cet équilibre.
C'est ça, sans dégrader le service.
Entre quel service donner à quel endroit, avec un État qui n'est pas interventionniste sur tous les sujets.
Donc c'est passé par une réduction quand même du périmètre
avec le relais de la sphère sociale. Ouais. Je pense que c'est intéressant, auquel contribuent d'ailleurs, et c'est ce qui moi m'a passionné dans cet écosystème, contribuent les entreprises, directement ou indirectement par la mobilisation de leurs propres salariés. Et ce relais social sur les différentes causes, que ce soit l'égalité homme-femme, qui me tient particulièrement à cœur, que ce soit l'illettrisme, que ce soit le sujet de la pauvreté, ils sont pris en charge également par la sphère sociale.
Et qualité de vie au travail aussi.
Exactement, oui, ça c'est le point central. C'est
les précurseurs aussi.
Précurseurs, et on le voit bien dans l'organisation du temps. Ça, c'était, je le décris dans le livre parce que c'était mon premier passage. Ouais. Quand j'ai demandé à quelle heure il fallait partir pour prendre son avion au retour, le taxi m'a dit que l'heure de pointe, c'était entre 15h et 17h. Voilà, donc l'heure de pointe du trafic, c'est 15h-17h. Ça participe à cet équilibre vie pro, vie perso, parce qu'on commence sa carrière avec à peine 2 semaines de vacances au départ. Alors après, il y a des jours tout au long de l'année où on trouve le moyen de se reposer, mais c'est une composante essentielle du modèle, en effet.
Est-ce que c'est un des pays, pas un pays, mais enfin, peut-être que c'est vrai dans tout le Canada d'ailleurs, mais est-ce qu'au Québec, plus qu'ailleurs, on réussit la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle ?
Oui, en tout cas, c'est une constante. Il n'est pas rare de voir, et j'ai eu l'occasion de travailler avec des différentes entreprises, avec les chefs de ces entreprises, le sujet est assez clair, il n'y a pas de réunions qui sont convoquées après 17h, 18h, jamais 17h par exception, parce que la journée s'arrête et il y a une vie après sa journée de travail. Et ça, c'est une vraie différence par rapport à ce qu'on peut vivre par ici en Europe. Et ça se met aussi en musique dans le rythme annuel. À ce titre-là, je raconte toujours que premier été passé là-bas, mon client me dit, tu vas retourner en France pour tes vacances, et puis tu vas faire comme tous ces Français, tu vas prendre 4 semaines de vacances au mois d'août. Voilà. J'ai dit, en effet, je vais prendre 4 semaines, 3 semaines, et on se retrouve fin août, début septembre. Un an après, je travaillais pour la même personne qui me refait le sketch du « tu vas reprendre ton mois d'août en entier », ainsi de suite. Je lui dis, attends. Il se passe quand même quelque chose aussi au Québec que j'ai touché du doigt. Vous avez au Québec l'été. L'été, ça commence à la fête de la Saint-Jean, et ça se termine le premier week-end de septembre. Pendant l'été, c'est la meilleure période pour bénéficier des territoires et de l'expérience au Québec. La plupart des entrepreneurs et des chefs d'entreprise canadiens sont dans leur chalet, hein, qui est à une heure, deux heures de Montréal. Ils reviennent pour une réunion, ils repartent le soir dans leur chalet. Et ça, c'est le rythme qui s'adapte aussi à la saison et à la saisonnalité.
Alors, quel est le rapport à l'égalité au Québec ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont comme nous, passionnés par cet égalitarisme ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans une société très méritocratique à l'américaine ?
Non, c'est une composante, encore une fois, assez mixte. Il y a une reconnaissance profonde pour la réussite. Il y a un respect profond de la réussite qui peut aller de la réussite entrepreneuriale qui se traduit par une réussite financière. Il n'y a simplement pas une exposition outrancière de la réussite financière. Et dans cet équilibre, ça s'était résumé à une période de la transition démographique du Québec qui était le principe de simplicité volontaire. On consomme ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'acheter une voiture plus grosse ou avec plus de place si on est un couple.
Il a bien des défauts, ce modèle québécois.
Oui, il a bien sûr quelques défauts. Et c'était d'ailleurs l'intérêt de pouvoir le mettre sur papier, puisque j'ai attendu 5 ans avant d'écrire et de retracer, d'en mettre sur le papier cette expertise, cette expérience au Canada et au Québec. 5 ans d'entrepreneuriat en France. Voilà. Et moi, l'intérêt aussi de ce livre, c'était de faire le miroir entre un pont, finalement, entre ces deux pays, ces deux régions qui ont beaucoup en commun, beaucoup à apprendre d'un continent à l'autre, et beaucoup de choses dans l'échange et dans la prise de risque.
Alors, qu'est-ce que notre modèle français, dont on dit qu'il est trop protecteur, dans lequel la protection sociale pèse trop lourd, son financement pénalise l'économie, qu'est-ce qu'on peut retenir, nous, qu'est-ce qu'on pourrait transposer du modèle québécois en France? De quoi on pourrait s'inspirer?
Déjà, reprendre confiance en nous. Hein. Et au cours de mes 7 années passées là-bas, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est particulièrement vrai, j'ai eu souvent la question de mes interlocuteurs québécois, qui me disaient, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi, Français, qui bossais en France, tu quittes la France, tu quittes Paris, et tu viens ici à Montréal développer ton affaire. Vous avez tout en France. Vous avez la diversité de territoire, vous avez la diversité de talents, vous avez l'histoire longue, vous avez des champions français, européens, mondiaux sur certains secteurs de l'industrie.
La 80 code, 400 000 normes.
Oui. Mais je regarderai toujours le côté positif.
Les entreprises les plus taxées du monde.
Je regarderai toujours le côté le plus positif des choses. Voilà. Et je pense que ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut essayer de retenir de ces confrontations, c'est qu'aucun modèle n'est figé. Et qu'il faut rester dans le dynamisme, dans l'ambition et dans la volonté de faire bouger les choses.
Oui, c'est ça, il y a une adaptabilité et une agilité dans la transformation, quand même, qu'on a perdu en France.
On part au combat, on perd, on recommence. Voilà. C'est ça aussi que j'ai vu dans les entreprises au quotidien, à Montréal et au Québec plus largement.
Merci beaucoup pour ces plongées très instructives dans les banlieues au Québec. Je rappelle vos 2 livres, Aziz Seni avec Jean-Marc Pitt, Made in Banlieue, un trésor de 150 milliards à exploiter. C'est aux éditions Michel Lafon et puis Alexis Gardy, Courir la chance, heureux comme un entrepreneur français au Québec. C'est aux éditions Hermann. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
Il n'a que 30 ans et certains sondages le donnent déjà gagnant. À 1 an et demi de l'élection présidentielle, alors que les inquiétudes grandissent, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, répondra aux questions des Français sur le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration et la place de la France dans le monde.
Je pense que la France est aujourd'hui menacée de disparition. Je me battrai pour défendre cette fierté française.
Salariés, chefs d'entreprise, agriculteurs, enseignants, étudiants, ils seront sur ce plateau pour l'interpeller directement sur ses propositions. Des échanges francs, sans détour, en toute liberté.
La clé, c'est l'ordre, c'est l'autorité.
Jordan Bardella face aux Français. Une soirée exceptionnelle présentée par Maxime Switek, ce soir à 21h, en direct sur BFM TV.
À l'écoute des entreprises avec HP. La visioconférence fait désormais partie du quotidien des entreprises et pour des échanges plus fluides, HP a lancé une gamme de copilotes plus PC qui sont des PC IA nouvelle génération. Bonjour Julie Conant.
Bonjour.
Vous êtes chef de produit notebook chez HP, alors comment ces PC intelligents améliorent-ils l'expérience utilisateur ?
Eh bien, par exemple, le HP EliteBook X-G1i intègre Polycamera Pro. C'est une technologie HP qui permet de personnaliser vos appels vidéo sur n'importe quelle plateforme de visioconférence.
D'accord.
Vous pouvez, par exemple, afficher votre nom, votre fonction à l'écran lors de vos réunions, comme une carte de visite vidéo.
Et tout ça repose sur l'intelligence artificielle ?
Oui, c'est le NPU, c'est une puce dédiée à l'IA qui gère ses effets en local. D'accord. C'est fluide, c'est sans impact sur la batterie du PC qui a plus de 10 heures d'autonomie en navigation web.
Sûrement très utile pour les entreprises hybrides ?
Oui, et avec la fin du support de Windows 10, passez au copilote puce PC, c'est vraiment le moment idéal.
Et pour plus d'infos ?
Rendez-vous sur hp.com/AIPC.
Merci Julie.
Merci.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. Sur toutes les box internet, chez SFR sur le canal 31. Chez Orange sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom sur le canal 242. Chez Free sur le canal 162. Et chez Canal en 171. Toutes vos émissions sont à voir sur RMC, BFM Play et sur toutes les plateformes de streaming. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. Retrouvez toute l'actualité au bureau sur bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première sur l'écho.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons évidemment avec notre batterie d'études de chiffres, le livre préféré de la rédaction. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et animateur de la rubrique livre dans Alternative Économique, le magazine. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président de la Société d'économie politique, dont il est aussi le critique indéboulonnable, mon cher Jean-Marc. Allez, on commence avec votre choix, Christian. Vous nous présentez « La couturière de Marie-Antoinette » par Audrey Millet aux éditions Talendier.
Oui, il y a quelques années, j'avais croisé le personnage, j'avais travaillé sur l'affaire du collier de la reine. Donc, j'avais croisé le personnage de Rose Bertin, qui était pour moi la petite couturière qui répondait aux ordres de Marie-Antoinette, qui voulait ses robes de luxe. Là, cette biographie, mais ça nous offre un personnage, c'était une femme d'affaires redoutable, cette Rose Bertin. On démarre, donc elle est née à Abbeville, à 9 ans, elle est en apprentissage, à 17 ans, elle vient en apprentissage à Paris, elle trouve que Marie-Jeanne Bertin, c'est pas terrible. Elle change son prénom parce que Rose Bertin trouve que ça fait un peu mieux. À 23 ans, elle se lance sur le marché de la mode, elle ouvre sa propre boutique de mode à Paris, alors qu'il y a un marché ultra concurrentiel et une boutique de mode de luxe pour vraiment l'aristocratie. Ouais. Elle arrive par les bons réseaux à toucher Marie-Antoinette et là, elle a une boutique dans laquelle elle s'est hyper bien gérée administrativement, elle sait quand il faut faire crédit, à combien et à qui, elle a un réseau logistique et de fournisseurs absolument incroyable. Dans toute sa période de formation, elle a repéré les meilleures couturières, donc elle les a prises pour elle. Elle arrive à toucher Marie-Antoinette, et là on peut dire en termes contemporains que la commande publique de Marie-Antoinette va faire exploser son business.
Ah ouais.
Elle va multiplier ses prix par 5 en quelques années. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris tout de suite qu'elle ne vendait pas uniquement des vêtements, qu'elle vend un bout de prestige social. On est complètement dans la société de courte de Norbert Elias, le paraître est plus important que l'être. Et elle sait qu'elle vend un petit bout de pouvoir royal, parce que si on achète la robe que Marie-Antoinette, de la fournisseuse de Marie-Antoinette, on achète un petit bout de pouvoir royal et de l'aristocratie. C'est absolument fabuleux. Elle va évidemment arriver... Elle soutient Marie-Antoinette jusqu'au bout. Et au moment de la Révolution française, on se dit « Oula, ça va mal se terminer ». Bon, elle a un petit exil à Londres, mais sinon, quand même, elle sauve sa vie, son patrimoine et son business commercial. Et après la Révolution, elle revient. Alors là, la jeune génération arrive et elle se fait tailler des croupières parce qu'ils sont plus innovants, puis parce que voilà, elle a vieilli, c'est la nouvelle génération. Mais moi, j'ai été fasciné par cette biographie qui nous raconte comment cette femme d'affaires a toujours su faire les bons placements, la bonne politique commerciale, trouver les bons fournisseurs et garder tout ça sur quand même pas mal de dizaines d'années.
Avez-vous été séduit par la couturière de Marie-Antoinette, Jean-Marc?
Oui, j'ai été séduit par ce livre. Je n'ai pas vu exactement la même chose que Christian, c'est-à-dire que ce n'est pas un milieu concurrentiel. Au contraire, c'est un milieu où, une fois qu'on a acquis sa rente, comme il l'a dit, après on multiplie ses prix dans des proportions invraisemblables. Et c'est quelque chose.
Une fois qu'on a franchi les barrières d'entrée.
Voilà, une fois qu'on a réussi à entrer, on est protégé. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que l'auteur. D'abord, c'est très bien écrit. je tiens à préciser, c'est très bien écrit, y compris d'ailleurs dans des passages qui ne sont pas des passages qui sont uniquement liés à Rose Bertin, mais elle décrit l'atmosphère à Abbeville quand elle fait son apprentissage. Il y a 3-4 pages où elle décrit l'entrée de Rose Bertin dans Paris, ce qu'était Paris, juste après la guerre de 7 ans, les odeurs, la façon dont les gens se comportaient. Et c'est passionnant, c'est bien écrit, on a l'impression de retrouver des auteurs du 19e ou du 18e siècle. Alors après, le personnage, effectivement, est un personnage qui est à la fois très attachant par sa détermination, par son professionnalisme. Christian l'a dit, à un moment donné, elle raconte qu'elle est victime d'un vol, elle sait précisément ce qu'on lui a volé, elle pardonne pas, elle va à la police et puis elle dit on m'a volé ça, on doit me rendre ça, il faut absolument que je récupère ça. Elle est, de même que quand elle part en exil, elle fait vendre une partie de ses biens parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas les récupérer, donc elle les vend. Bon, c'est quelqu'un qui est véritablement très très minutieux dans sa façon d'organiser sa vie et son commerce. Et puis alors, effectivement, ce que j'ai trouvé très sympathique et très attachant, c'est qu'elle reste fidèle à Marie-Antoinette. Quand Marie-Antoinette devient veuve, c'est-à-dire le 23 janvier 1793, on vient de guillotiner Louis XVI, elle lui envoie une robe de deuil. Alors que Marie-Antoinette est en prison, que Marie-Antoinette va être probablement exécutée, on a déjà commencé la campagne de calomnie contre elle, et elle n'hésite pas, elle lui envoie une robe de deuil en disant « vous êtes en deuil, vous avez droit à une forme de reconnaissance », et elle lui envoie. Et donc cette fidélité, ce caractère, cette capacité à s'affirmer, à ne pas se laisser faire, en rendait un personnage très attachant. Alors effectivement, Christian l'a dit, elle n'a pas compris après le directoire, c'est une période entre les excès de la période, le fait que les gens qui sont là sont pas du tout ceux qu'elle a fréquentés, c'est des parvenus, c'est des gens qui sont issus de la Révolution, donc c'est des gens qu'elle comprend pas très bien, donc elle finit par se retirer. Alors j'ai vérifié, elle se retire à Épinay, et elle a droit à une station sur une ligne de tram de à Épinay, une station Rose Bertin, en regardant un peu, si on parlait d'elle, il y a une station Rose Bertin, c'est-à-dire que Épinay l'a reconnue, sa ville d'accueil finale, l'a reconnue comme une des personnalités les plus importantes du lieu. C'est un livre véritablement à recommander pour cette fin d'année. Ouais. C'est un livre véritablement à lire.
Bon, on reste un peu dans les coulisses du pouvoir, Jean-Marc Daniel, avec votre choix, le livre de Yannick Halimi, L'argent et le pouvoir. Alors, Élysée-Bercy, Les liens secrets, c'est chez Plon. C'est quoi ce titre un peu énigmatique, Les liens secrets, Élysée-Bercy?
Oui, le titre ne correspond pas immédiatement au contenu du livre. Il y a une astuce de l'éditeur, une astuce assez habile sur le plan commercial. Donc, Yannick Halimi nous raconte effectivement le fait que progressivement, dans l'appareil gouvernemental, Bercy a pris une importance. Alors, le ministère des Finances, même si elle lit, elle raconte qu'elle va s'attacher à la période d'après le déménagement, après le départ, après l'installation de Pierre Bérégovoy à Bercy. Mais elle dit, effectivement, il y a eu une sorte de configuration nouvelle qui s'est faite progressivement dans la Ve République, avec une conséquence, c'est que le poste de Premier ministre a disparu. Elle a trois parties dans son livre. Une première partie où elle décrit, où elle raconte un peu comment fonctionne Bercy, où avec, il y a pas mal de digressions autour de Donald Trump qui m'ont paru un peu hors sujet. Mais enfin bon, après, elle pose cette question de façon très claire et très nette. À quoi sert encore le Premier ministre? Il y a des débats, la question est tout à fait pertinente, et elle dit Bercy, en quelque sorte, élimine progressivement...
Court-circuit.
Matignon. Et donc, quelle que soit la situation, y compris quand c'est même en situation de cohabitation, Bercy réussit à s'affirmer face à Matignon, et donc la question qui se pose, c'est, est-ce que la première réforme intellectuelle des institutions, c'est pas ce qu'avait proposé d'ailleurs un certain président de la République, je crois que François Hollande l'avait proposé, de se poser la question de savoir est-ce que le poste de Premier ministre garde un sens dans la façon dont la pratique institutionnelle s'est imposée. Et puis ensuite, elle essaie de raconter au quotidien comment fonctionne Bercy. Le livre, objectivement, le livre ne révèle pas de secrets. Quant à ce qu'on dit, c'est un livre qui est agréable à lire, mais qui, comment dirais-je, n'est pas un livre scientifique entre guillemets. C'est pas, c'est un livre qui est agréable à lire et qui nous conforte dans la vision qu'on peut avoir de ces rapports un peu étranges qu'il y a entre l'Élysée, Matignon et le ministre des Finances.
C'est bien Nicolas Sarkozy qui parlait de François Fillon comme son collaborateur.
Oui, exactement, exactement. Donc c'est la partie d'ailleurs la plus intéressante, j'ai trouvé, c'est dans ces trois parties, c'est celle qui est la partie centrale, la numéro 2, qui est vraiment centrée sur comment Matignon est en train de se faire éliminer dans le circuit.
Christian Chavagneux, qu'avez-vous pensé de cet argent et le pouvoir?
C'est un livre fourre-tout, hein. Franchement, je pense que l'autrice, elle a hésité entre trois livres, puis finalement, elle avait
elle a fait les trois.
Elle a pas assez pour faire. Regarde, donc elle a dit, je mets tout d'un coup, comme ça, je donne tout ce que j'ai. La première partie, moi, j'ai trouvé assez intéressante sur est-ce que la politique française se trumpise. Moi, j'ai trouvé que c'était la partie la plus intéressante. Elle nous dit.
C'est pas inintéressant, mais c'est un peu hors sujet.
De toute façon, comme il y a trois sujets différents, tout est hors sujet par rapport aux deux autres. Donc, la première partie était plutôt, ouais. Moi, j'ai trouvé intéressante parce qu'elle nous dit, est-ce que le business se rapproche du président de la République, par exemple. Elle dit, regardez les relations très, très de proximité forte entre Emmanuel Macron et Bernard Arnault. Oui, il y a une forme de, est-ce que ça se musquise au sens, est-ce qu'on devient de plus en plus libertarien? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, la classe politique ouais. veut tailler à fond dans la dépense publique? Bon, dans le discours, oui, et dans le nombre de fonctionnaires, dans le discours, oui, dans la pratique, peut-être un peu moins, mais oui, il y a une tentation libertarienne. Ça, c'est le premier livre. Le deuxième, c'est ce dont Jean-Marc a surtout parlé, c'est oui, alors Matignon un petit peu en train de s'effacer, et Bercy est un ministère qui a beaucoup de pouvoir. Oui, et dans l'introduction, on le dit, qu'elle a trouvé un nouveau pouvoir émergent qui est celui de Bercy. Le pouvoir du ministère des Finances... il y a date de quelques années, de quelques décennies, de quelques siècles. Donc, on ne découvre pas que Bercy a beaucoup de pouvoir en France. Elle nous dit, du coup, est-ce que c'est le ministre des Finances qui a du pouvoir ou est-ce que c'est le Trésor, en fait, qui s'impose? Et la conclusion qu'on lit depuis des années et des années, c'est que quand le ministre est faible, le Trésor est fort, et quand le ministre est fort, le Trésor est plutôt faible. Donc là non plus, on n'apprend pas grand-chose. La dernière partie, qui n'est pas vraiment une partie, qui est une petite dizaine de pages, c'est à la prochaine présidentielle, il va y avoir les Insoumis, les Écolos, Ciotti, Bardella. Et là, franchement, on est un peu dans le café du commerce, quand même, parce qu'on n'apprend absolument rien du tout. Donc voilà, c'est vrai, c'est très bien écrit, ça se lit extrêmement facilement, c'est un vrai travail de pro d'écriture journalistique, mais sur le fond, franchement, il n'y a pas grand-chose à manger.
Merci à tous les deux. Allez, c'est l'heure de... revenir, non, de s'intéresser à notre étude de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, l'étude de la semaine.
Et on se penche cette semaine à l'approche des élections municipales sur l'évolution du commerce dans nos villes. C'est une étude Fact qui vient d'être publiée. Christophe Noël, bonjour.
Bonjour.
Christophe, vous êtes le délégué général de la FACT. Rappelez-nous ce qu'est la FACT.
La FACT, c'est une fédération de l'immobilier spécialisée dans tous les murs de commerce, tous les lieux immobiliers dédiés à l'accueil du commerce en France.
Alors, Christophe, première surprise dans votre étude, puisque on est toujours sur un peu l'image d'une désertification de nos centres-villes. Vous dites la vacance commerciale... y a quand même pas mal de villes dans lesquelles on constate une amélioration.
Effectivement, il y a une tendance générale à la hausse de la vacance commerciale, c'est-à-dire le nombre de magasins vides dans les villes françaises, qui continue à progresser, mais ce n'est pas le cas partout. Et on commence visiblement à sentir les effets des politiques publiques mises en place pour essayer de redonner de l'attractivité au centre-ville. Et il y a de plus en plus de villes qui enregistrent une régression de ce fameux taux de vacances, parfois dans des proportions très significatives.
Ouais, presque 40% des villes françaises sont parvenues à réduire leurs vacances depuis 2019.
Absolument, et même dans les villes de 50 à 100 000 habitants, c'est carrément 48% des villes qui ont vu ce taux régresser. Alors ça ne veut pas dire que c'est la fin du problème, mais c'est quand même un signe d'amélioration très notable. En particulier, si on compare, donc la période qu'on a observée, c'est la dernière mandature municipale. Ouais. Mais si on compare cette période-là par rapport à celle d'avant, hein, l'avant-dernière mandature, là, la différence est flagrante. La situation se dégradait partout de façon très rapide, et c'est ce qui a aussi justifié de la mobilisation des acteurs publics, du lancement du plan Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, et tout ça, sans, dans les villes moyennes en particulier, commencer à porter ses fruits.
Alors justement, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a permis que finalement cette augmentation de la vacance soit en partie freinée?
Alors, notre étude, elle fait parler, elle fait témoigner des maires, justement, dans chacune des catégories de villes qu'on a définies.
Ouais.
Et ce qui est vraiment commun à l'ensemble de ces élus, c'est qu'ils témoignent de l'activation de tous les leviers qui peuvent contribuer à redynamiser, à revitaliser les centres-villes. En fait, ce n'est pas que des actions sur le commerce, c'est des actions sur le tourisme, sur la culture, sur la restauration du patrimoine, sur tout ce qui touche au parcours client, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accède au centre-ville, comment est-ce qu'on réaménage les accès publics, et puis aussi des politiques en faveur du logement, des politiques qui visent à faire revenir des actifs en centre-ville, parce que les salariés, ce sont aussi des consommateurs pour les commerces.
Ce que vous soulignez aussi dans l'étude qui est passionnant, c'est en fait, il n'y a pas de fatalité du déclin. Par contre, ce qui est vraiment fondamental, c'est la capacité à faire travailler ensemble les acteurs du public et du privé.
Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites. Il n'y a pas de fatalité parce qu'effectivement, on a recherché s'il y avait un lien entre, par exemple, l'évolution de la population sur la même période et justement l'évolution de la vacance commerciale. Alors non, il n'y a aucune corrélation pour les 355 villes observées.
Ah ouais.
Et ensuite, le second point que vous soulevez, il est très juste, c'est la question de la gouvernance et du pilotage de ces politiques publiques. Vous savez, on parle par exemple beaucoup des managers de commerce. Ouais. Ils ont un rôle qui a vraiment prouvé son efficacité, mais un manager de commerce, il peut faire des choses si derrière il est soutenu par les autres politiques publiques, par les départements de la voirie, par les gens qui sont en charge du logement, par les gens qui sont en charge de l'attractivité et du développement économique. Et donc c'est bien en alignant l'ensemble des acteurs publics, et sans oublier aussi les acteurs privés, parce que je crois que à chaque fois, ça s'appuie sur des investisseurs, sur des porteurs de projets, sur des commerçants indépendants qui se battent eux aussi pour redonner Merci. Cette attractivité aux villes.
Merci beaucoup Christophe Noël, délégué général de la FACT qui publie cette étude passionnante, Le commerce dans les villes françaises à la veille des élections municipales 2026. Allez, c'est l'heure de nos multiples études et statistiques de la semaine.
BFM Business, la librairie de l'écho, des idées et des chiffres.
Notre première étude de la semaine, c'est le baromètre Doogs pour l'année 2025 sur les vrais revenus des entrepreneurs français. Et on y apprend beaucoup de choses dans ce baromètre inédit, donc sur la rémunération des entrepreneurs. Il se base sur les flux financiers réels de plus de 20 000 sociétés tricolores. Alors, ce qu'on apprend d'abord, c'est que 53% des entrepreneurs ne se versent aucune rémunération. Parmi la part des entrepreneurs qui ne se rémunèrent pas, 62% bénéficient de l'ARE et l'utilisent à leur lancement, l'aide de retour à l'emploi. Ceux qui le peuvent affichent une rémunération médiane de 21 631 euros par an, soit près de 20% de moins que le salaire médian national. Alors, cette moyenne cache des profils très différents. Hein. Le premier, c'est le profil majoritaire, c'est celui des entrepreneurs qui privilégient le 100% salaire, une option jugée plus stable et plus lisible. Là, la rémunération médiane, on est un peu au-dessus de 15 000 euros. Ensuite, il y a le profil mixte qui concerne près de 20% des dirigeants, salaire plus dividende, avec une rémunération plus élevée, autour de 29 000 euros. Et puis, les entrepreneurs les plus établis qui privilégient, eux, le 100% dividende avec une rémunération médiane de 52 000 euros, sachant que les écarts restent très importants en matière de revenus entre secteurs. Les plus hauts revenus se situant évidemment dans l'informatique, alors que les dirigeants du commerce, du BTP ou de l'artisanat, eux, restent sur des salaires 2 à 3 fois moins élevés que ceux des patrons de l'informatique.
L'alerte de la semaine.
Deux études sur les retraites regroupées parce qu'elles éclairent deux facettes d'un même phénomène, d'une même réalité. Les Français n'ont plus confiance dans notre système de retraite. Ainsi, les futurs retraités anticipent une perte de plus de 30% de leur pouvoir d'achat. Ça, c'est le baromètre du moral des futurs retraités MIF réalisé avec Odoxa. Très précis, même si plus d'un Français sur deux avoue ne pas très bien comprendre comment fonctionne notre système de retraite. Et puis, la deuxième étude, c'est celle de Pollen Roll pour Godvest, qui met en lumière des chiffres révélateurs sur le rapport des Français à l'épargne et à la retraite. 70% des Français ne font pas confiance à l'État pour garantir leur retraite et 73% se disent favorables à l'instauration d'un système par capitalisation, système par capitalisation qui n'est pas généralisé et qui, à défaut, eh bien, débouche sur une capitalisation privée, soit financière, soit immobilière.
Le chiffre de la semaine.
Et c'est cette étude assez époustouflante du Trésor qui met en regard, finalement, l'évolution du niveau scolaire des jeunes Français et la croissance économique. Alors, le constat sur le niveau de nos élèves, il est extrêmement préoccupant. Hein. On passe sur toutes les dégringolades dans les classements PISA, notamment en mathématiques. La direction du Trésor qui réalise cette étude le dit de façon encore plus saisissante. Seuls 1% des élèves d'aujourd'hui sont au niveau des 10% les meilleurs en 1987. Et 56% des élèves d'aujourd'hui ont un niveau inférieur au niveau atteint par les 10% les moins performants de 1987. Et cet effondrement scolaire a un coût économique exorbitant puisqu'il expliquerait 60% du recul des gains de productivité et donc du potentiel de croissance de l'économie française.
BFM Business, la librairie de l'écho, le coup de cœur de la rédaction.
Le coup de cœur cette semaine, c'est avec notre spécialiste de la politique économique à BFM Business, Hugo Babet. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Alors Hugo, il nous fait le grand écart intellectuel puisqu'il était venu il y a quelques semaines nous présenter les travaux de l'Institut La Boétie, donc proche de LFI. Et là, cette semaine, il va disséquer pour vous le nouveau livre de Jordan Bardella et notamment, évidemment, les aspects économiques du livre de Jordan Bardella. C'est quoi ce livre, Hugo Babet? Comment vous l'avez appréhendé?
Ce livre, c'est 20 portraits de Français, mais pour exposer les propres idées politiques et économiques de Jordan Bardella. La construction du livre, c'est à chaque fois la même chose, un récit d'un Français, puis derrière un